mon main rêvée de s'évader au pied d'une cage d'escalier. De petits becs d'amour, de petits museaux qui se font la cour au pied des tours de ce monde marteau. De mon marévé, de zévadé, au pied d'une cage d'escalier. Et toujours comme à 15 ans, s'aimer sans se dire, se raconter encore une fois qu'un jour on larguera tout ça. La télé qui cause toute seule, les vieux qui se foutent sur la gueule. Prendre la première rue, oublier ce bled perdu.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, plein d'inédits. À 14h, un slam. À 14h03, un micro-trottoir. On est à la BNF en mai 2024 et les élèves de CM1, CM2 de l'école Torres B vont à la rencontre d'autres élèves journalistes, à la maternelle Casanova et au collège Travail Langevin de Bagnolet. À 14h15, on se retrouve avec Ivry en fête en juin 2024 et sur le stand de Radio Cartable, les enfants interviewent parfois leurs parents, parfois leurs amis et parfois d'autres personnes, Gilbert en particulier aujourd'hui et un ancien enseignant et un groupe de rock qui s'appelle Petro. À 14h30, on retrouve une histoire inventée contre les stéréotypes par les CM2 de l'école Langevin d'Ivry avec les CE1 de l'école Joliot-Curie. Et c'est l'histoire de Jordan. À 14h38, une rediffusion. Paulette Greiner de l'Association des enfants juifs déportés d'Ivry rencontre la classe de CM2 de l'école Einstein, c'était en juin 2022. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Entendez-vous le jingle qui s'envole de votre poste?
Oui, c'est quoi?
C'est Radio Cartable, la radio d'Ivry, que nous émerveille. Et dans chaque jeudi, de 3 à 11 ans, c'est nous les enfants que nous adressons à petits et grands. Mais avant d'y être, on a du travail et la journaliste, c'est un vrai métier.
Alors dès le matin, on est motivé, prêt à rechercher la tête pleine d'idées. Et dans chaque école, élèves éveillés sont déterminés à vous informer. Armés d'un crayon, l'esprit éclairé, toujours au service de la vérité.
À tous les sujets, nous nous attaquons sans appréhension, oui, nous raisonnons. En fond, un texte, telle est la question, nous sommes toujours prêts pour des corrections.
Les intox, c'est pas pour nous. Les intox, c'est pas pour nous.
Les recherches faites par D'Ambroglio, nos cerveaux en feu, là, dans ce démo, écrire, raturer et recommencer, justesse, précision, objectivité. Et seul ou en groupe, l'encre coule à flot, écrire est un art sans aucun repos.
Enfin, le moment de s'enregistrer. Un micro, un casque, on peut commencer. Dehors ou dedans, rien ne nous arrête. Rythme, intonation, un flot de compète.
Quand vient le montage, on fait le ménage, mixage et bruitage, sacré habillage. Ça y est, tout est prêt. On attend jeudi de 14 à 15. Ça y est, c'est parti.
89.4.
Dans les émissions, vous retrouverez sommaire, interview, actualité.
Ouvrez vos oreilles, soyez concentrés. Je sport sans reportage animé.
Quel que soit le thème, on peut s'y retrouver. Culture fantasy, visite commentée.
Et préparez-vous, vous allez rêver. Musique, poésie, lectures enchantées.
Diff, rediff, direct. Vous avez le choix, mais il faut écouter. Ne l'oubliez pas.
1984-2024, 40 ans, des milliers d'enfants. Bon anniversaire, Radio Cartable.
Est-ce que vous pouvez parler à votre question?
Bonjour. Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Ça va, merci. Est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que la journée te plaît?
Elle me plaît beaucoup, mais j'attends juste le moment de la bibliothèque.
La journée me plaît parce que j'ai découvert des choses très très très, très intéressantes par les autres classes.
Oui, elle me plaît beaucoup. Ça a été bien de voir les autres nous montrer leurs projets, ce qu'ils ont fait. C'était sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Ouais. Pouvez-vous expliquer votre média?
Nous, on travaille sur Radio Cartable. On est dans la classe de CM1, CM2 de Torres B. C'est une radio scolaire qui a été créée par tous les enfants de toutes les écoles et maternelles. D'Ivry sur Seine.
Ah bah Radio Cartable, c'est une émission faite par des enfants qui partagent les informations mondiales, non seulement en France mais aussi dans les autres pays. On partage plein de choses.
Pourquoi aimes-tu être journaliste?
Ça apprend des choses aux gens de ce qui se passe sur le monde.
Ça apprend quel genre de choses pour le coup?
Bah des guerres, des morts, de harcèlement.
J'aime être journaliste parce que partager les infos, c'est très intéressant. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que on a tous besoin d'être un peu actualisés.
Et partager quelles infos?
Moi, en ce qui me concerne, je préfère partager les infos, le racisme, je sais pas, j'aime bien.
Bah, c'est parce que j'aime bien parler aux gens qui sont autour de moi. En public.
Mais t'aimes bien de parler de quoi au
Parler de cas graves, découvrir des choses qui sont importantes, tout ça là.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Maïlis.
T'es en quelle classe?
Du coup, je suis en quatrième.
Dans quelle école?
Je suis dans le collège Travail Langevin, à Bagnolet.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Anna.
T'es en quelle classe?
Je suis en cinquième.
Quel est ton prénom?
Chloé.
Quel âge as-tu?
J'ai 15 ans.
En quelle classe es-tu?
En troisième. Moi, j'ai 12 ans.
T'es en quelle classe?
Je suis en sixième.
Comment tu t'appelles?
Gaspar.
Est-ce que la journée te plaît?
Oui, ça me plaît beaucoup.
C'est une journée exceptionnelle pour nous.
Peux-tu présenter ton média?
Midi Média. On fait des émissions radio, des émissions télévisées et un journal papier.
Et aujourd'hui, on participe dans au concours médiatique dans la catégorie Web TV.
On organise des séances tous les vendredis à midi. On parle de beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'y suis depuis la 6e, donc ça fait 4 ans. Et Depuis 4 ans, on fait plein de sorties, on apprend plein de trucs, on fait beaucoup de choses, on prend beaucoup de temps pour faire des activités. Du coup, c'est super bien, voilà.
Mon média, j'interview des personnes dans le collège, leur demander ce qu'ils font comme métier, voilà.
Pourquoi aimes-tu être journaliste ?
J'aime être journaliste parce que ça permet de communiquer des informations.
Des informations, comme c'est un journal de collège par rapport au collège, mais on fait aussi des informations plus globales comme les JO et, ou d'autres, des manifestations, tout ça.
Alors moi, j'aime être journaliste parce que justement j'apprends des choses. J'apprends des informations, j'apprends à filmer, j'apprends à interviewer, j'apprends à écrire. Ça m'a permis beaucoup de choses pour tout ce qui est brevet, tout ce qui est contrôle en français, tout ça, parce qu'on apprend à pas faire de faute d'orthographe. Et aussi à m'exprimer, parce que question de timidité, tout ça, quand on va faire les interviews, faut pas être timide, faut être sûr de soi, etc. Donc voilà.
J'aime bien être journaliste parce que ça nous fait découvrir des personnes qu'on connaissait pas avant. Par exemple, nous, je sais qu'on a été rencontrer une personne qui est aveugle et qui va faire les Jeux Olympiques, du coup. Laetitia Bernard. Et du coup, j'ai bien aimé la rencontrer et qu'elle nous parle de son parcours.
Ça me permet d'échanger avec les autres, de découvrir de nouveaux horizons.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Bien.
T'as quel âge ?
5 ans et demi.
Et tu t'appelles comment ?
Maisie.
Tu t'appelles comment ?
Arthur. Arthur.
Tu as quel âge ?
5 ans.
Dis donc, t'es grand, hein ? Tu es en quelle classe ?
Grande section.
Dans quelle école ?
Casanova, à Ivry-sur-Seine.
Est-ce que la journée te plaît ?
Oui.
Peux-tu expliquer ton métier ?
Je travaille, je fais des activités qu'on prend en photo et qu'on met dans le journal. Je suis un petit peu tout.
Aimes-tu être journaliste ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez parler à votre question ?
Tu as la tête en surchauffe et ton cerveau en bouillie.
Appuie sur le bouton off et des connexions wifi.
Faut sortir faire du roller, mets ton ordi à la benne, sinon ton beau processeur
va attraper la migraine. T'es accro aux écrans, t'as les crocs, t'es accro, tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort-vivant. T'es accro aux écrans, t'as les crocs, t'es accro, t'as envie de faire une pause, il faut que tu te reposes. Tu ne contrôles plus tes actes,
tu te noies dans ton smartphone et tu perds tous tes contacts.
Ici il n'y a plus personne,
tu vas finir par bugger comme une pauvre application. T'as l'air complètement paumé,
géolocalisation. T'es accro aux écrans, t'as l'écran, t'es accro, tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans, sur Fortnite en mode solo,
tu restes en ligne toute la nuit,
tu te prends pour un héros,
demain tu seras un zombie. Faut que tu fasses une mise à jour,
tu viens te faire pirater,
tu n'as plus de vie de secours, il vaut mieux tout arrêter.
T'es accro aux écrans, t'as l'écran, t'es accro, tu ne vas pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans, YouTube et les vidéos, Snapchat, les réseaux sociaux,
Instagram et même Twitter, on compte tous nos followers.
Mais la maîtresse nous a dit, on s'en va en classe de mai.
Donc les écrans, ça suffit.
Allez plutôt prendre l'air. T'es accro aux écrans, t'as accro, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans, t'as accro, t'es accro. T'as envie de faire une pause, il faut que tu te reposes.
Un retour à la vraie vie, et bye bye le virtuel.
On oublie même les selfies quand la nature est si belle.
Ici c'est écran total, fini les écrans tactiles.
On part tous faire de la wall,
on arrête les jeux débiles.
T'es accro aux écrans, t'as accro, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans, t'as accro, t'es accro. T'as envie de faire une pause, il faut que tu te reposes. T'es accro aux écrans, t'as accro, t'es accro. Tu ne vois pas passer le temps, c'est toi le vrai mort vivant. T'es accro aux écrans, t'as accro, t'es accro. T'as envie de faire une pause, il faut que tu te reposes.
Laurent Montagne, accro aux écrans. Ce titre vient d'un CD qui a été composé avec des classes.
Bonjour, nous sommes là, ça y est, prêts à accueillir le public. Nous les attendons avec impatience, surtout qu'il fait beau aujourd'hui, donc on va avoir du monde, j'espère bien. Bien qu'hier, il y a eu du monde parce qu'ils sont venus s'abriter sous le stand. Ils ont aussi fait de belles productions.
Radio Platak, radio de la djeti zeshko Ivry-sur-Sienne.
Bonjour, je m'appelle Sydney, j'ai 10 ans. J'interview ma meilleure amie, Léa. Quel stand as-tu visité aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai visité premièrement le stand de, où on fabrique des coquillages, des colliers en coquillages. Et là, je suis en train de faire Radio Cartable, du coup mon deuxième stand de la journée.
Qu'est-ce qui t'a beaucoup plu ?
Ce qui m'a beaucoup plu, bah, vu que j'en ai fait que deux, que celui-là sera mon deuxième, c'est le stand de colliers. Avec coquillage.
Pourquoi ?
Parce que j'aime bien la création, j'aime bien les choses de mer et tout ça. En plus, j'ai pu faire des colliers pour mes amis, ma famille et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu.
Merci, bonne fête d'Ivry.
Radio Mouchila, radio des crianças de l'école d'Ivry sur Seine.
Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 10 ans. J'interview ma maman. Et donc, maman, préfères-tu lire entre les lignes ou lire les lignes de la main ?
Oh, moi, j'adore lire entre les lignes.
Ah, d'accord. Et une dernière question, parce que je vois que tu as des lunettes. Est-ce que tu vois mieux de près ou de loin ?
Ni de près ni de loin. Tu sais, il y a un moment quand tu vieillis, tu vois plus ni de près ni de loin. Donc j'ai des super lunettes bioniques qui me permettent de voir super bien de près et super bien de loin maintenant.
Ah là, c'est super.
Et j'interviewe ma grande fille qui s'appelle Juliette. Juliette, j'ai une question fondamentale à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu préférerais devenir une plante ou un ver de terre ?
Le ver de terre, c'est plus utile.
Le ver de terre, c'est plus utile. Bah, je suis bien d'accord avec toi. Pourquoi pas ? Et du coup, t'habiterais où, madame la ver de terre ?
Là où on aurait besoin de moi.
D'accord. Et si t'avais le choix, si t'étais pas un ver de terre, si t'étais juste une Juliette, est-ce que tu préférerais vivre dans l'espace ou sous la mer ?
Bah, ça dépend. Si je suis capable de respirer hors de l'atmosphère, je préférerais vivre dans l'espace. Mais si j'étais capable de respirer sous la mer, je préférerais vivre sous la mer. En gros, si je peux respirer dans les deux, bah, je préférerais vivre sous la mer parce que c'est sublime, etc., 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 etc.
Et que t'aimes bien nager, j'ai l'impression, toi.
Bah, bien sûr,
comme
tu
un
connais,
petit poisson. Bon, bah, c'est d'en faire tout ça. Merci beaucoup, Juliette. Bonne fête d'Ivry.
Merci.
Les petits poissons dans l'eau nagent avec leur catape sur le dos. Les petits poissons dans l'eau viennent et écoutez la radio.
Bonjour, je m'appelle Katia. J'ai 7 ans. J'interviens. Mon papa, quel était ton jeu préféré quand tu avais mon âge?
Le foot.
Qu'est-ce que tu aimais dans ce jeu?
Jouer au ballon.
Est-ce que tu étais mauvais perdant?
Non, j'étais gâtant, j'étais meilleur. C'était moi qui jouais le mieux au foot.
Bonjour, je m'appelle Amélia, j'ai 9 ans et j'interviewe ma mère. Quel était ton jeu préféré quand tu avais mon âge?
Alors, quand j'avais ton âge, j'aimais bien jouer aux petits chevaux.
Qu'est-ce que tu aimais dans ce jeu?
Alors, ce que j'aimais dans ce jeu, c'est que... Alors, j'aimais beaucoup jouer à ça avec ma grand-mère. Et ce que j'aimais, c'est que ça durait longtemps. Donc, du coup, ça me permettait de passer de longs et jolis moments avec ma mamie.
Est-ce que tu étais mauvaise perdante?
Non, j'étais pas mauvaise perdante. Ça ne me dérangeait pas de perdre, parce que je me disais que le plus important, c'était de participer et passer de bons moments.
Merci, bonne fête d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Liane, j'ai 15 ans, j'interview Faustine, ma meilleure amie. Est-ce que tu te souviens d'une fois où tu as triché pendant un contrôle à l'école?
Oui, c'était en primaire. J'étais énervée, j'avais pas très envie de travailler, alors j'ai triché sur ma voisine.
Est-ce que tu t'es fait prendre?
Ah non, ça jamais, je suis très discrète quand je fais ces gestes. Très très discrète.
Est-ce que ça t'a aidé pour le devoir?
Ah! Eh bien non, ça ne m'a pas aidé parce qu'après j'ai reçu une mauvaise note. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire de mes propres moyens et de mes propres idées.
Merci, bonne fête d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Émilie Marie, j'ai 10 ans, j'interviewe ma maman, Sylvia Perdrio. Alors maman, tu préfères vivre dans un monde où tout est toujours à l'envers ou où tout est toujours en noir et blanc?
Alors je préfère vivre dans un monde où tout est en noir et blanc parce qu'à l'envers on voit actuellement ce qui se passe dans la société, on est bouleversé, tout est à l'envers et on voit ce que ça donne. Donc vaut mieux un monde en noir et blanc, bien que j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est moins la cacophonie. Donc voilà, un monde en noir et blanc.
Merci et bonne fête d'Ivry.
Bonjour, nous sommes en direct de Radio Cartable. Je m'appelle Darolino et j'interviewe Gilbert. Depuis quand connaissez-vous Radio Cartable?
Depuis 1987.
Est-ce que vous pouvez partager un souvenir avec nous?
Oui, à l'époque, j'ai accompagné les enfants de CM1 de l'école Langevin. Et comme je jouais de la guitare, je les accompagnais dans un atelier de chansons.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne fête d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Aya, j'ai 9 ans et demi, j'interview une copine qui se nomme Yasmine. À quoi as-tu joué?
Et je parle de la fête d'Ivry. Hein.
Ah oui, alors j'ai fait du karaoké, j'ai fait de l'acrobranche et j'ai fait des ateliers.
Merci et bonne fête d'Ivry!
Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 9 ans et j'interview ma copine Aya. Tu préfères être capable de changer d'apparence à volonté ou de changer ta personnalité à volonté?
J'aurais plutôt aimé changer d'apparence à volonté, car tu peux changer ta personnalité, mais ton apparence, tu ne peux pas.
Tu préfères t'exprimer en musique ou en écrivant une histoire?
Je préfère écrire une histoire. C'est quelque chose où je peux bien ressentir mes émotions. Et la musique, je ne suis pas très douée en musique.
Merci et bonne fête d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Arthur, prénom Arthur, j'ai 7 ans et j'interview ma maman. Et à tes yeux, quel est mon plus gros défaut? Pourquoi me trouves-tu nul?
Alors, déjà, je te trouve jamais nul, première chose. Et je ne sais pas quel est ton plus gros défaut, mais quand tu te chamailles avec ton frère, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ça, c'est un gros point d'amélioration que tu pourrais tout à fait, sur lesquels tu pourrais tout à fait faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Mais non, tu es nul en rien du tout. Voilà, je crois que personne n'est nul. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire des fois. Ça ne veut pas dire qu'on est nul.
À tes yeux, quelle est ma plus grande qualité? Pourquoi me trouves-tu douée?
Alors, moi, tu as beaucoup de qualités. Je trouve que tu es très fort pour comprendre ce que ressentent les gens et pour faire preuve d'empathie. C'est-à-dire, si tu vois que quelqu'un est malheureux, triste ou qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas, en général, tu le vois, tu vas voir la personne et tu l'aides et tu es aussi attentif aux plus petits que toi. Et ça, je trouve ça chouette, d'être attentif à tout le monde, mais aussi aux plus petits que soi.
Quel conseil me donnerais-tu?
De continuer à bien grandir comme ça.
Merci, bonne fête d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Loane. J'ai 9 ans. J'interview ma maman. Raconte-moi une bêtise que tu as faite enfant.
Alors, la bêtise que j'ai faite quand j'étais enfant, j'ai escaladé l'armoire où il y avait des verres en cristal pour récupérer, je ne sais plus si c'était un biberon ou une tétine qui était en haut que mon grand frère Thierry avait mis en haut. Parce que j'ai dû l'embêter ou lui faire une bêtise et du coup, il me l'avait confisqué. Donc, quand j'ai escaladé l'armoire, et ben, tous les verres en cristal sont tombés. Et du coup, j'ai reçu des éclats de verre un peu sur moi partout. Et mon grand frère, Thierry, il m'a grondé très très fort. J'ai été punie pendant longtemps.
Est-ce que c'est toi qui avais eu l'idée?
Oui, car je voulais absolument récupérer ma tétine ou mon biberon, je ne sais plus ce qu'il m'avait confisqué. Et du coup, j'ai dit tiens, et si je grimpais pour aller le chercher moi-même? Sauf que ce n'était pas une bonne idée.
Est-ce que tu as été punie?
Oui, pendant très très longtemps.
Merci, bonne fête d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Darolino, j'ai 11 ans. J'interview mon animateur. Raconte-moi une bêtise que tu as faite, enfant.
Alors, je me rappelle quand j'étais enfant, je demandais d'aller aux toilettes. Et quand je revenais, en fait, j'avais les mains toutes mouillées et j'allais voir les profs et je leur touchais le bras en leur disant qu'il n'y avait plus de papier toilette.
Est-ce que c'est toi qui avais eu l'idée?
Oui.
Est-ce que tu as été puni?
Oui. Un petit peu.
Merci, bonne fête d'Ivry.
Merci, bonne fête à
toi. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 9 ans, j'interview ma tata. Comment allais-tu à l'école?
Bonjour Myriam, alors j'allais à l'école à pied. J'allais à l'école à pied, puis ensuite j'ai déménagé donc sur Ivry Centre et on prenait le bus pour aller à l'école.
À quel âge t'a-t-on laissé partir seule?
Alors on m'a laissé partir. Alors on était avec frères et sœurs, donc on a commencé à aller seule à l'école quand on a emménagé sur Albert Einstein. J'avais quel âge? CE1, c'est quel âge? 8 ans. J'avais 8 ans.
Merci et bonne fête d'Ivry.
Merci beaucoup Myriam.
Bonjour, je m'appelle Naïla, j'ai 8 ans. J'interviewe ma tata. Où est-ce que tu habitais enfant ?
Bonjour Naïla. Alors, enfant, j'habitais à Ivry-sur-Seine. Donc, je suis née à Ivry-sur-Seine et puis voilà.
D'accord. Est-ce que tu y es retournée ?
Bien sûr que oui.
Est-ce que le lieu a changé ?
Il a vachement changé. J'ai toujours vécu à Ivry-sur-Seine et je vois au fil des années que les habitats commencent à changer, l'environnement commence à changer et ceci grâce aux futures générations.
D'accord. Merci. Bonne fête d'Ivry.
Merci.
Nous sommes en direct de la fête d'Ivry. Nous allons interviewer un groupe de rock. Je me présente, je me nomme Aya et voici ma coéquipière
Émilie Marie. Première question, qui êtes-vous ?
Donc on est un groupe de rock, on est 5 et on s'appelle Petrichor. Ça fait un an qu'on joue ensemble.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a lancé dans le rock ?
Au tout début, on était tous copains les uns avec les autres. Et après, on s'est rendu compte qu'on aimait tous faire de la musique et qu'on aimait tous un peu la même musique. Et du coup, on s'est dit que on allait faire un groupe et qu'on allait commencer à composer des chansons. Et voilà.
Comment avez-vous créé votre groupe ?
C'est en étant tous copains et en participant à l'atelier musique de notre lycée qui nous a tous réunis.
Ok. Comment s'appelle votre première chanson ?
Notre première chanson, elle s'appelle Supernova.
Merci beaucoup. Au revoir et bonne fête d'Ivry.
Merci à vous aussi.
Jordan fait le tour du monde.
Il était une fois Jordan, un garçon aux yeux bleus qui adorait dessiner. Il était vraiment fort en dessin, il pouvait dessiner n'importe quoi et lui donner l'air vivant. Jordan vivait en Guadeloupe, une île pleine de couleurs et de gens, sur laquelle on trouve beaucoup d'hôtels. Il vivait dans un hôtel avec son chien Stella. Il rêvait de faire le tour du monde. Jordan avait très peur du noir dans ce grand hôtel.
Il essayait parfois d'écrire des lettres pour raconter la Guadeloupe. Il avait peur que la lumière saisième brusquement, le laissant seul et sans rien voir. Sans lumière, il ne pouvait rien créer ni dessiner. Mais un jour, la lumière s'est éteinte brusquement et la dictophobie de Jordan l'a poussé à sortir de l'hôtel. Dehors, toutes les maisons étaient en feu. Soudain, un dragon est apparu de derrière les immeubles. Et il a griffé Stella. Puis il s'est envolé au loin.
Pour venger son chien, Jordan prit la décision de pourchasser le dragon à travers le monde. Et il se mit en route. En chemin, il rencontra 3 bébés chats adorables. Mais Jordan comprit vite qu'il s'agissait d'un lion, d'une panthère et d'un guépard. Les 3 animaux essayèrent de lui parler, mais Jordan ne comprenait rien à leur baragouin. Alors, les animaux communiquèrent grâce à des symboles tracés de la terre avec leurs griffes. Des symboles qui n'étaient pas des lettres. Ils lui indiquèrent de suivre les maisons enflammées, suivre les griffures sur les parois pour retrouver le dragon.
Jordan fit ce qu'il lui avait conseillé, mais en chemin, il croisa une fillette qui chantait.
Je m'appelle Mia, je déteste la séance, moi je m'en fiche des conséquences. J'adore les figures de danse, je suis toujours sur la cadence.
Il l'approcha, mais elle se moqua de lui en lui répétant qu'il ne savait pas écrire. Alors Jordan dessina un dragon qui prit vie et sortit de la feuille, et il l'enfourcha pour s'enfuir. Grâce aux empreintes de l'autre dragon, ils le suivirent jusqu'à une grotte. Mais lorsqu'ils y arrivèrent, Mia était là. Elle donna des ordres au dragon en écrivant des mots sur les murs.
Jordan comprit que c'était elle qui l'avait fait apparaître en écrivant. Heureusement, il avait avec lui son propre dragon. Il pouvait aussi faire appel au lion, au guépard et à la panthère pour se défendre. Lorsqu'elle l'aperçut, Mia voulut lancer son dragon contre Jordan. Mais les deux dragons s'étaient rencontrés et jouaient aux cartes dans leur coin. Pendant que le lion et la panthère occupaient Mia, Jordan monta sur son guépard pour la contourner.
Puis il fit à nouveau appel au pouvoir du dessin. Il traça un nœud blizzard et l'envoya contre Mia pour lui faire perdre la mémoire. Avant que le vent ne la touche, Mia écrivit que le blizzard se retournait contre Jordan. À cet instant, surgit de la grotte le chien Stella, ainsi que les habitants de la Guadeloupe. À l'aide d'un immense éventail, ils dévièrent le blizzard contre Mia. Celle-ci perdit toute sa mémoire dans la tempête. Quant à Jordan, il se rendit compte qu'en pourchassant le dragon, il avait réalisé son rêve de faire le tour du monde.
De l'Association des enfants juifs déportés d'Ivry-sur-Seine lors de sa rencontre avec les CM2 de l'école Einstein en juin 2022.
Bon, ben alors rebonjour. Et ce que j'ai dit à vos copains d'à côté, je suis contente de vous retrouver, hein, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas venue dans l'école. Ben moi, je suis contente de revenir. J'espère que vous serez contents aussi. Ben, ils ont des questions avant même que j'ai commencé. C'est formidable. Vas-y. Je vais t'expliquer que je suis née en même temps que la guerre, 10 jours avant. Alors, exercice de calcul, tu vas calculer après quel âge j'ai. Et je ne veux pas le savoir, parce que j'ai oublié. Prends ta calculette. J'ai un certain... Un certain âge. 95. Allez hop.
105.
106 quoi ?
Qui dit mieux ?
100. 100 par là.
Bon, allez.
4000.
4000, d'accord. Je propose quand même qu'on écoute. D'abord, on écoute et après, vous poserez toutes vos questions. Et là, je vous le calculerai chez vous. Exercice de calcul, c'est très bien. Bon. Allez, on y va. Alors, puisqu'il y en a certains qui m'ont vu à la cérémonie de l'arbre aux enfants, vous savez que d'une part, je m'occupe à Ivry d'une association. Donc, cette association qui a fait comme travail de retrouver les noms de tous les enfants qui habitaient Ivry, qui ont été arrêtés pendant la guerre, qui ont été déportés, qui ont été assassinés, qui ne sont jamais revenus. Et il y en a 39 dans toute Ivry. Donc, à l'époque de la guerre, il y avait 3 écoles primaires à Ivry. Donc, dans ces 3 écoles-là, on a mis des plaques commémoratives. À l'extérieur, c'est le même texte. Et à l'intérieur de l'école, il y a les noms des enfants qui allaient à l'école dans ces écoles-là et qui sont parvenus. Et alors, donc, moi, je me suis occupée de cette association depuis sa création. Ça fait bientôt 20 ans. Et par ailleurs, comme je vous ai dit, je suis née à quelques jours de la déclaration de guerre dans une famille juive qui était parmi les principaux persécutés par le régime nazi. Donc j'ai été, même si j'étais petite, j'ai été témoin de beaucoup de choses, ce qui permet de le raconter. Et comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, je me suis documentée et je fais ça comme une, ce qu'on appelle un devoir de mémoire, parce qu'il faut que l'histoire se transmette pour qu'on ne l'oublie pas. Donc je suis née à 10 jours de la guerre, dans un... Oh, ben, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ?
J'ai tiré, il s'est cogné dans le sol, et il n'y a pas un gros
coup. Mais ça va s'arranger. Donc, dans l'est de la France, le département de la Moselle, avec des parents qui étaient émigrés d'Europe centrale, qui arrivaient d'un pays qui avait changé 3 fois de nationalité pendant qu'ils y étaient. Quand ils sont nés, c'était l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire qu'ils sont allés à l'école en parlant le hongrois. Après, c'est devenu la Roumanie très peu de temps. Après, c'est devenu la Tchécoslovaquie quand la Tchécoslovaquie a été créée. Donc, quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés avec des passeports tchèques. Et maintenant, c'est l'Ukraine. Ça a été annexé par l'Ukraine. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Et puis, pendant la guerre, étant donné que l'Allemagne avait annexé la Tchécoslovaquie, ils sont devenus ce qu'on a appelé apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus rattachés à aucun pays. Donc, voilà, née donc, dans cette région de France avec des parents comme ça, et dès la déclaration de guerre, ils savaient ce qui s'était passé dans leur pays, c'est pour ça qu'ils l'avaient fui. Donc, ils ont compris que ça allait justement mal se passer. Donc, tout de suite à la déclaration de guerre, ils ont tout bouclé dans leur appartement, ils ont commencé à s'éloigner de la frontière, qui était à peu près à 60 km. Donc ils ont commencé par les Vosges, qui étaient à 80 ou 100 km, puis après plus loin. Je vais vous passer les détails, parce que c'était long et compliqué. Et tout ça pour arriver dans le sud-ouest de la France, parce qu'il faut savoir qu'au début de la guerre, la France était divisée en deux. Il y avait une espèce de frontière qui s'appelait la ligne de démarcation. Et c'était donc les gens qui allaient au sud, ils se disaient qu'ils allaient être plus en sécurité parce que au début de la guerre, il n'y avait pas encore de troupes d'occupation allemande. Donc on est resté là jusque... Enfin, mes parents, je me suis installée avec mes parents, ou mes parents sont installés avec moi, plus exactement, puisque j'étais toute petite. Et il y avait dans cette maison, avec nous, mon grand-père paternel, le plus jeune frère de mon père, parce qu'il faut savoir que dans la famille de mon père, ils étaient 12 enfants, donc voilà. C'était le dernier de la famille, qui d'ailleurs a été déporté et n'est jamais revenu. Plus une sœur, plus 2 autres frères, mais qui ne vivaient pas avec nous, parce qu'ils étaient dans des groupes de résistants, ils vivaient dans les bois, etc. Et donc on vivait là. Et mon grand-père, qui ne parlait pas un mot de français, dès ce moment-là, mes parents ont décidé qu'on dirait à tout le monde qu'il était sourd-muet. Comme ça, il ne pouvait pas répondre et on ne pouvait pas se rendre compte qu'il ne parlait pas français. Et donc, dans cette ville, c'était dans le Lot, qui était la zone dite libre. Elle n'est pas restée libre très longtemps, parce que dès les années 42... Les Allemands ont passé la ligne de démarcation et puis ont commencé à aussi envahir le sud de la France. Donc mes parents, comme beaucoup d'autres familles, ont compris que ça allait être de plus en plus difficile, que peut-être ils devraient encore aller plus loin. Et donc ils ont décidé de trouver une famille d'accueil, parce que beaucoup de parents essayaient de mettre leurs enfants à l'abri en se disant que si eux n'arrivaient pas à s'en sortir, peut-être que les enfants seraient sauvés. Donc, comme ça, on m'a trouvé une famille d'accueil que personne ne connaissait, qui a dû leur être signalée par soit des groupes de résistants, soit une de mes tantes qui habitait déjà dans cette ville de Dordogne. Et cette famille avait accepté d'accueillir chez eux des enfants, même juifs. Donc à 3 ans et demi à peu près, mes parents m'ont mise dans un bus toute seule pour partir dans cette famille. J'étais sous la surveillance du chauffeur de bus et je suis arrivée donc dans cette famille du Périgord que je ne connaissais absolument pas.
mais qui s'est avéré d'une part une chance extraordinaire parce qu'ils étaient très, très aimants, très attentifs, j'ai eu une vie de rêve pendant les années de guerre, ce qui peut paraître extraordinaire. D'une part parce qu'ils étaient très gentils, d'autre part parce qu'ils étaient fabricants de conserves. Donc en temps de guerre, ça sert d'avoir des provisions quand personne n'a rien à manger. D'autre part parce que c'était une petite ville qui avait beaucoup de fermes autour et qu'on pouvait aller s'approvisionner. Et aussi parce qu'il y avait un jardin, donc toutes les conditions étaient réunies. Et puis pendant ce temps-là, mes parents sont restés dans leur petite ville, pas très longtemps parce qu'après... il y a eu des rafles, etc. Ils ont dû aller plus loin. Mais il faut aussi savoir que nous n'avions aucun contact. Parce que comme tout était dangereux... Déjà, première chose, quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil, on m'a changé mon nom. Parce que comme au départ, je m'appelais Bergman, ce qui n'était pas très français comme nom, on m'a changé mon nom, on a décidé que je m'appellerais Delage. Et il a fallu qu'à 3 ans et demi, j'apprenne mon nouveau nom de famille et que je me trompe surtout jamais. Et puis on m'a appris à dire que je n'avais plus de parents, puisqu'on ne pouvait plus avoir de contact avec mes parents, que j'étais orpheline, que mes parents étaient morts sous des bombardements, et je devais raconter ça à tout le monde. Et j'étais très fière de ne jamais m'être trompée jusqu'à la fin de la guerre. Alors ça, c'est une chose. Et puis, dans cette famille, on n'avait aucune nouvelle de mes parents. De temps en temps, ils leur écrivaient des lettres, mais sans dire que c'était leur fille, en disant qu'ils avaient une petite fille orpheline en garde, qu'elle allait bien, elle grandissait, etc. Ils leur envoyaient de temps en temps une photo, mais on ne savait absolument pas s'ils recevaient ou pas, parce qu'on ne savait pas s'ils étaient au même endroit, s'ils allaient déménager, si on ne savait pas. Et puis... comme il y avait à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas de téléphone. Enfin, très peu de gens avaient des téléphones, mais en plus, c'était interdit pour les Juifs d'avoir des téléphones. Et puis, il n'était pas question qu'on fasse le lien entre eux et moi. Donc, pas de téléphone. Ils n'écrivaient pas. On ne pouvait pas savoir ce qui leur arrivait. Donc, on a vécu comme ça jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'après la libération, où mon père a téléphoné pour dire qu'ils étaient toujours en vie et qu'il allait venir me voir. Oui. Qui m'ont attrapé? Non, et personne n'a essayé de m'attraper. Parce que j'étais bien protégée. Oula, ça fuse déjà, vas-y.
Par qui vous étiez protégée?
Mais par la famille dans laquelle j'étais.
Normalement, ceux qui partent, ce n'est pas des déserteurs.
Déserteurs de quoi?
Ceux qui partent de leur pays.
De l'armée.
Pourquoi ceux qui quittent l'armée, ils sont déserteurs. Mais ceux qui partent de leur pays, ils sont quoi? On en entend parler tout le temps en ce moment. C'est des immigrés, c'est pas des déserteurs. Voilà. Mes parents étaient des émigrés d'Europe centrale. Voilà. Oui.
Mais en ce moment, maintenant, vous avez gardé le même nom que vous avez pendant la guerre?
Non. Alors, pendant la guerre... Jusqu'à la libération, je me suis appelée Delage. Après, le jour de la libération, on m'a dit, ça y est, tu peux reprendre ton nom. Donc, j'avais déjà 5 ans et demi, donc j'ai fait le tour de tous les ouvriers qui travaillaient dans l'usine, etc., pour dire, je ne m'appelle pas Delage, je m'appelle Bergman, et mes parents ne sont pas morts, et si, et ça, et tout va bien. Et puis, entre-temps, mon nom d'origine, qui était Bergman, entre-temps, je me suis mariée, donc je m'appelle aussi Greiner maintenant. Mais bon, tout ça, c'est normal, hein. Oui.
Est-ce que quand vous étiez petite, il y avait des bombardements pas loin de la ville et du coup vous deviez vous cacher ou...
Alors il y avait des bombardements. Alors quand j'étais avec mes parents, on n'en a pas eu dans cette ville, sauf une fois où mes parents étaient religieux très pratiquants, donc ils ne mangeaient pas de viande parce qu'il n'y avait pas de viande tués traditionnellement, etc. Puis un jour, pour une fête de je sais pas quoi, de Pâques peut-être, ma mère a décidé qu'elle allait aller à quelques dizaines de kilomètres de là où habitait, où était cachée une autre de nos familles, un oncle et une tante, enfin un de ses frères avec sa femme. Et là, dans cette ville, il y avait une boucherie où ils pouvaient acheter de la viande. Donc nous voilà partis toutes les deux pour... passer quelques jours et puis rapporter un peu de viande chez eux. Et là, pendant qu'on y était, ce jour-là, il y a eu un bombardement, effectivement. Donc, il y avait des alertes au bombardement et tous les gens devaient descendre, se mettre à l'abri, à la cave ou dans les abris. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et bon, alors ça fait rigoler tout le monde, mais toute la famille est descendue à la cave et comme j'étais haute comme ça, ils m'ont oublié. Ils ne m'ont pas emmenée à la cave, donc je me suis planquée sous une table. Et comme on était à l'heure du dessert, et ben j'étais sous la table. Et dessous la table, j'ai piqué toutes les parts de tarte qu'il y avait sur la table et j'ai tout mangé. Et quand ils sont remontés, ben j'étais en pleurs parce que j'avais trop mangé, j'étais malade. Voilà, oui.
C'est le cracheur ?
Oui. Alors, il faut tuer les animaux selon un certain rite, etc. Enfin, c'est très compliqué. On a le droit de se compliquer la vie si on veut. Hein. Chacun son truc. Oui.
Et donc, vu que vous avez dit que vous êtes né 10 jours avant la guerre, oui. Comment vous vous êtes fait pour, quand vous étiez bébé, pour vous nourrir avec du lait ou avec
et
des potes ou des pots?
C'était compliqué parce que tu sais que pendant la guerre, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Parce qu'on ne trouve rien, tout est rationné, tout est réquisitionné. Et il y avait même ce qu'on appelait des cartes d'alimentation. Alors, je vais vous en montrer. Les cartes d'alimentation, alors chacun devait en avoir une. Ça permettait d'aller dans les magasins, il fallait montrer sa carte pour pouvoir acheter quelque chose. Et vous verrez qu'attaché à cette carte, il y a des tickets. Et ces tickets, ça ne servait pas à payer, ça servait uniquement à comptabiliser les quantités de choses qu'on achetait. Parce que c'était très réglementé, il y avait, je ne peux pas vous dire combien maintenant, moi je n'ai pas souvenir, mais il y avait tant de litres de lait par mois pour les bébés, il y avait, alors je ne parle même pas du beurre parce qu'il n'y en avait plus, mais la farine, il y en avait très peu, mais on pouvait en acheter une certaine quantité, enfin des tas de choses comme ça. Et tout ça, c'était réglementé. Et chaque personne devait en avoir une. Alors, je vais vous faire passer cette carte d'identité qui a été faite à mon nom. Et vous remarquerez que sur cette carte, il y a un tampon rouge où c'est marqué juif. C'est-à-dire que pour les juifs, ce n'étaient pas les mêmes magasins qui étaient possibles. Il y avait certains magasins qui leur étaient réservés. Ils ne pouvaient pas aller dans les autres. Et non seulement certains magasins leur étaient réservés, mais certaines heures leur étaient réservées. Et en particulier, c'était la fin de la journée. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit d'aller faire leurs courses entre 4h et 6h du soir. C'est-à-dire à l'heure où pratiquement il ne restait plus rien dans les magasins. Quoi. Voilà, une carte d'identité à moi.
Votre prénom ? C'est votre vrai nom ou votre
nom ? C'est mon vrai nom. Parce que là, c'est 41, tu vois, j'avais même pas un an encore, je crois. Avec cette carte, oui.
Quand tu restais quasiment plus rien dans les magasins, est-ce que vous essayez de trouver ce que vous cherchez que vous ne trouvez pas, mais que si... En fait, je vais essayer de mieux reformuler ma phrase. Si vous allez dans un magasin, mais okay, que... Voilà. Est-ce que vous allez dans un autre magasin?
Alors, moi, je ne faisais rien parce que j'étais trop petite, mais les gens... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelait le marché noir.
Oui.
Alors, le marché noir, c'était quoi? C'était des gens qui avaient, souvent des gens qui étaient à la campagne, qui produisaient du lait, de la viande, je ne sais pas quoi. Et quand ils en avaient trop pour eux, ils le revendaient ailleurs. Et ils profitaient, enfin certains profitaient un peu de la situation, ils le revendaient plus cher que ce qui était le prix normal. Mais bon, pas tout le monde a fait ça, et puis dans les grandes villes, c'était très difficile d'acheter au marché noir. Alors il y a eu des films là-dessus, je sais plus comment il s'appelle ce film, la grande, non c'est pas La Grande Vadrouille, je sais plus.
Avec Jean Gabin.
Voilà. Alors, ils traversaient tout Paris ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a eu des tas de films marrants, mais c'était pas drôle en fait. Mais bon, il faut bien faire du cinéma, hein, dit-elle. Oui.
Le marché noir, c'est pas l'endroit des Indiens et tout.
C'est
non.
Ah non. Le marché noir pendant la guerre,
c'était des gens qui vendaient des produits de première nécessité, si tu veux, parce qu'ils avaient, soit parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser tout ce qu'ils avaient, et parce que les gens manquaient de tout. Alors ils étaient prêts. Imagine s'il n'y avait plus de lait dans les magasins. Les gens qui avaient des bébés, ils étaient prêts à n'importe quoi pour acheter du lait.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Voici arrivée la fin de cette émission de rentrée.
La semaine prochaine, vous pourrez écouter une émission tirée des archives.
Nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né, nu, tout simplement tout nu. Sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux, des pélicans avec des chapeaux nuls, tout simplement tout nuls. Restons nus, tout simplement tout nuls. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu. Non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Nous vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né, nu, tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter aujourd'hui l'émission Bibliomanie, présentée par Valère Marie Marchand. Et avec à la technique la complicité de Flo Descailloux, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous recevons Henriette Chardac pour Anatole France, une résurrection. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur. On va tout vous dire sur Anatole France, dont c'est l'année. C'est l'année, Henriette Chardac, bonjour.
Bonjour, oui, Valère. C'est le l'année. Pauvre France, pauvre France est mort le 12 octobre, voilà. Il y a un siècle.
Il y a un siècle. Un auteur, un écrivain institutionnalisé, tellement, c'est tellement une institution de son époque qu'il a un purgatoire assez long, Anatole France, Henriette Chardac. Et... Alors, d'abord, ma première question, qu'est-ce qui vous a mis sur... qu'est-ce qui vous a attiré chez cet homme, chez cet écrivain? Qu'est-ce qui vous a... Quel a été le déclic pour vous? Parce que c'est... C'est pas, finalement, ça va pas de soi, ça va pas non plus.
Alors, il y a trois choses.
Oui.
La première, mon père avait, Anatole France, une collection qui rampait sur les murs, et je le voyais rire, sourire et relire, Anatole France. Et j'ai encore l'odeur du papier marbré à l'intérieur avec les illustrations. Aujourd'hui, on n'en fait pas. La deuxième chose, c'est que Anatole France a exactement les mêmes goûts que moi, et il s'intéresse à Pythagore, il s'intéresse donc à la Grèce, et c'est un emmerdeur. Je suis un peu une emmerdeuse, et c'est un empêcheur de tourner en rond, un engagé, on va dire. Et qu'est-ce qui a vraiment déclenché la chose? C'est que d'un côté, j'ai lu Un cadavre, c'est-à-dire tous les auteurs, peintres, poètes, romanciers, surréalistes, qui ont mis volontairement France au purgatoire, le traitant d'étron, applaudissant sa mort. Et j'ai lu, le premier livre que j'ai lu s'appelait L'île des pingouins, que je vous recommande. Et je n'arrivais jamais à descendre à la bonne station quand je lisais. J'arrivais au terminus et je repartais en arrière et je loupais à nouveau la station. L'île des pingouins, c'est une histoire drôle. C'est l'humour au troisième degré de France. Il prend un personnage qui s'appelle Maël et qui arrive à convertir bien des gens sur la planète. Or, un jour, il devient presque aveugle. Et il va baptiser des pingouins. Et ces pingouins, puisque Dieu ne peut pas dire que Maël est un mauvais homme, plutôt un saint, il va rentrer ces pingouins dans l'histoire de France. Et France revisite l'histoire de son pays avec drôlerie et comme un justicier. C'est-à-dire, il va parler, par exemple, de l'affaire Dreyfus. Et le nom change, c'est Pirotte.
Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il faut dire donc qu'Anatole France est né en 1844, le 16 avril. Il naît à Paris, Quai Malaquais d'ailleurs, c'est un pur parisien. Et son père, alors vous me parliez de livres, vous me parliez de la texture des livres, du goût des reliures, la reliure c'est très important. Son père était donc un fils de paysan, si j'ai bien compris, le sixième enfant d'une famille de paysans. Il était un peu analphabète, on va dire ça comme ça.
Totalement.
Et il est devenu libraire.